VOA Afrique.
Bienvenue sur VOA Afrique en ce jeudi 14 janvier. Jacques Aristide avec vous au programme de ce numéro de Washington Forum dans ce beau décor de notre studio de New York. Gros plan sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU en Afrique entre échec et espoir.
La première sur le continent, l'ONU, que l'opération des Nations Unies au Congo, remonte à 1960. Aujourd'hui, plusieurs missions en Afrique sont qualifiées d'échecs, alors que les allégations de viol se multiplient contre des casques bleus. Mais vous l'entendrez, Hervé Latsou, le patron de ce département, maintient que beaucoup d'Africains ont retrouvé, grâce aux Nations Unies, la perspective d'une vie meilleure. Sujet à débat.
Washington Forum.
Mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Plein feu donc sur les casques bleus, ces soldats de la paix qui servent le monde depuis plus d'un demi-siècle. 1948 marque le début des opérations de maintien de la paix de l'ONU, dont un bon nombre en Afrique. Aujourd'hui, une vingtaine d'opérations sont en cours. La tâche est souvent compliquée, mais pas sans controverse. Un survol avec Salwa Jaafari.
Les forces du maintien de la paix, une organisation forte de plus de 106 000 personnels en uniforme, 92 000 soldats et observateurs militaires, 13 000 policiers, sans oublier les volontaires qui sont au nombre de 1710. Des hommes et des femmes sous la bannière de l'ONU, ils sont pakistanais, éthiopiens, rwandais, égyptiens, 20 nationalités déployées dans le monde pour mettre fin au conflit. Le prix de la paix, 8 milliards de dollars. Les États-Unis y contribuent à hauteur de 28%. Depuis 1948, l'ONU a lancé 71 opérations sur 4 continents. Il n'en reste plus que 16. Plus de la moitié des missions des Nations Unies se trouvent en Afrique. En plus de maintenir la paix et la sécurité, les casques bleus sont de plus en plus souvent chargés d'apporter une assistance lors de processus politiques, de réforme des systèmes judiciaires, formation des forces de police, désarmement et réintégration des anciens combattants, mais également pour soutenir le retour des personnes déplacées et des réfugiés. Entre simple interposition et véritable intervention militaire, les opérations ont été déployées sur de nombreux théâtres, tantôt pour maintenir la paix, tantôt pour protéger l'assistance humanitaire ou pour la mise en œuvre d'accords de paix. Le bilan est honorable pour certains, mitigé pour d'autres. On parle de débâcles en Somalie, en Bosnie et au Rwanda. L'ONU est souvent tenue pour échec par les gouvernements et par les populations.
Merci Salwa pour nous avoir planté le décor. L'heure maintenant d'accueillir nos invités. Avec moi sur notre plateau de New York, Jean-Victor Nkolo, haut fonctionnaire des Nations Unies, affecté au bureau du conseiller spécial pour l'Afrique. En ligne de Goma, Clovis Kada, membre du bureau de coordination du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice. Et il est ici à New York, mais nous rejoint via Skype à cause d'une mauvaise grippe. Et d'ailleurs, donc, nous remercions Philippe Bolopion, le responsable ONU de Human Rights Watch. Merci donc d'être avec nous. Mais d'abord, un premier extrait d'un entretien que m'a accordé Hervé Latsou, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. C'était vendredi dernier au siège des Nations Unies à New York. Il est ici question du Burundi et de la RD Congo. Hervé Latsous. On certainement reviendra tout à l'heure sur ce petit extrait de cette interview avec Hervé Latsou. Alors, mais d'abord, je le disais, un mot sur de remerciements. En fait, c'est Margaret Béchir qui a facilité cette interview. Alors, Clovis Kada, je me tourne vers vous. L'élection présidentielle en RD Congo ne sera pas de tout repos. L'Est du pays est toujours menacé. Est-ce vraiment le moment pour la MONUSCO d'envisager une stratégie de sortie?
Merci, vous l'avez bien dit, la RDC court droit vers l'inconnu. Il n'y a pas que l'Est du pays qui demeure instable, avec des tueries à répétition, notamment dans le territoire de Beni, mais il y a aussi l'Ouest où il y a l'incertitude sur le politique. Pour répondre à votre question, nous pensons que le moment est mal choisi pour dégager les rangs de la MONUSCO ou de parler d'une stratégie de sortie. En tout cas, le moment est mal choisi. Souvenez-vous que c'est surtout grâce à la MONUSCO, à la brigade spéciale d'intervention de la MONUSCO, que le M23 a été défait, du moins militairement. Donc le moment est très mal choisi maintenant pour parler d'une sortie stratégique de la MONUSCO.
Alors, le Burundi, Jean-Victor Nkolo, risque génocide, d'après l'ATSUS lui-même. Mais pourquoi l'ONU semble-t-elle repousser l'échéance pour ce qui est de l'envoi d'une mission pour protéger les civils? Ne va-t-il pas être trop tard demain pour le Burundi, comme cela a été le cas hier pour le Rwanda?
Je crois que les Nations Unies ont fait exactement ce qu'il fallait faire dans une situation particulièrement complexe. Le Rwanda, c'est il y a plus de 20 ans déjà, et c'est une situation bien évidemment différente. Il est vrai que le Burundi, c'est alarmant, et aussi bien le secrétaire général que son conseiller spécial pour la prévention du génocide, M. Adama Dieng, se sont prononcés plusieurs fois au sujet du Burundi, et je crois que les opérations de maintien de paix des Nations Unies, le département des affaires politiques, et bien d'autres entités, y compris celles que j'ai citées, le responsable qui est chargé de la prévention du génocide, ont fait tout ce qu'il fallait faire. Il faut dire ici que je pense que l'Union africaine travaille très étroitement avec les Nations Unies et que l'Union africaine a aussi pris un certain nombre de mesures. Il n'est pas trop tard et je crois qu'il faut aussi respecter la souveraineté des États et l'ONU est très sensible à cet aspect de la question.
Évidemment, mais vous n'êtes pas là que pour défendre votre chapelle, j'espère.
Non, pas du tout. Il s'agit d'abord et avant tout de sauver des vies. J'ai participé personnellement à 10 missions de maintien de la paix, dont au moins une en dehors de l'Afrique, au Kosovo. Et en réalité, les missions de maintien de la paix, ce n'est pas la panacée. Encore faut-il que pour maintenir la paix, il faut qu'il y ait une paix à maintenir. C'est-à-dire qu'il faut que les parties en conflit soient d'accord, que l'ONU puisse être invitée, puisse venir, encore que l'ONU peut parfois prendre des mesures qui vont au-delà du simple maintien de la paix. Mais tout cela dépend, bien évidemment, du Conseil de sécurité.
Vous avez parlé de l'Union africaine, on y reviendra tout à l'heure. Philippe Bolopion, faut-il dès maintenant déployer des casques bleus au Burundi ?
Je pense que l'ONU, en tous les cas, se doit d'être un peu plus créative pour empêcher ce que tout le monde semble prédire pour le Burundi. Il n'y a pas de solution facile, évidemment, comme l'Union africaine l'a réalisé. Il ne suffit pas d'annoncer une mission de maintien de la paix pour qu'elle prenne forme. Il semble que dans le contexte actuel, il est très difficile de faire quoi que ce soit sans l'assentiment des autorités burundaises. Donc ça limite beaucoup, je dirais, l'éventail des possibilités. Ceci dit, la situation actuelle est aberrante. L'ONU est littéralement en train de fermer ses portes au Burundi depuis que la mission qui avait été déployée pour surveiller les élections est partie. Et même si l'envoyé spécial de Ban Ki-moon, Jamal Ben Omar, essaye de redéployer quelques personnes sur le terrain, il faut réfléchir de manière, je dirais, beaucoup plus stratégique. Et l'ONU devrait faire des propositions plus détaillées au Conseil de sécurité. Elle a été invitée à le faire. Mais, par exemple, l'ONU devrait proposer le déploiement d'une mission politique spéciale au Burundi, peut-être, pourquoi pas, accompagné de policiers internationaux qui pourraient patrouiller dans les quartiers sensibles, s'assurer que la police burundaise ne s'en prenne pas à la population, mais s'assurer aussi que l'opposition armée ne commette pas des attaques. Donc il y a beaucoup plus que l'ONU pourrait faire au Burundi. Le Conseil de sécurité va très probablement s'y rendre la semaine prochaine et j'espère que ce sera l'occasion d'avoir ces discussions avec les autorités burundaises.
D'accord. Alors, chose promise, chose due, voici le premier extrait de cet entretien avec Hervé Latsous.
D'abord, je crois que tout le monde le comprend bien, il nous faut une stratégie de sortie. La MONUSCO, comme la plupart des opérations de maintien de la paix, n'a pas vocation à se pérenniser indéfiniment. Et des progrès incontestables ont été faits dans le renforcement du potentiel des forces de sécurité congolaises qui graduellement assume une part grandissante du fardeau. Ceci étant, il faut effectivement que ce soit géré de manière prudente, c'est-à-dire que nous ne fragilisions pas les résultats qui ont été chèrement acquis au fil des années. Donc nous sommes en discussion avec le gouvernement de la RDC pour trouver la bonne pente de décélération et en même temps rester en mesure de faire face aux menaces qui subsistent. Vous avez raison de le dire, dans l'est du Congo, nous avons les rebelles ougandais de l'ADF, mais nous avons également des rebelles du FDLR qui, il y a quelques jours, ont probablement assassiné une quinzaine de personnes qu'on a retrouvées mortes, égorgées. Il y a des maï-maï de différentes obédiences un peu partout. Et donc, nous continuons à y travailler. Je crois que chacun prend la mesure, effectivement, de la gravité des évolutions en cours au Burundi. Et dans ce contexte, le Conseil de sécurité m'a demandé de faire une planification prospective que nous avons déjà bien entamée, avec évidemment toute une série de paramètres. Est-ce que nous serions amenés à intervenir en prévention ou au contraire en réaction à des événements? Est-ce que nous serions amenés à intervenir avec le consentement du gouvernement burundais ou sans ce consentement? Est-ce que nous serions amenés à intervenir en appui à cette force de protection africaine, la MAPROBOU, que, comme vous le notez, le président Nkurunziza, pour le moment, n'accepte pas. Un des paramètres pour nous, c'est évidemment la réalité, qui est que nous avons 20 000 casques bleus en RDC à 30 km de Bujumbura.
Voilà, Hervé Latsou. Et d'ailleurs, il reconnaît que son département n'a pas les moyens de protéger efficacement les civils en cas de génocide. Alors, Jean-Victor, pour aider les pays en crise sur le continent africain notamment, si on ne peut pas totalement compter sur l'ONU, alors qui peut aider ?
Je crois d'abord qu'il faut remettre les choses un peu à leur place. Je crois que M. Hervé Latsou a tout à fait raison et il a bien expliqué la complexité de la situation à laquelle nous faisons face actuellement au Burundi. Ce n'est pas qu'on ne peut pas véritablement compter sur les Nations Unies, c'est que les Nations Unies sont un facteur de succès quand un certain nombre d'éléments sont déjà en place. En l'occurrence, on peut citer qu'il y a eu des opérations de maintien de la paix beaucoup plus compliquées et peut-être faisant suite à des conflits civils beaucoup plus longs et beaucoup plus meurtriers qui ont été un succès parce que certains éléments étaient justement en place. On peut citer le Mozambique, la Namibie, il y a peut-être longtemps déjà, mais quand on se souvient de la terrible guerre qui a eu lieu au Mozambique entre le Frelimo et la Renamo, on peut dire que quand les Nations Unies viennent et que les Nations Unies sont invitées, que les parties en conflit sont prêtes à accepter d'aller au travers d'un certain nombre de décisions prises et vérifiables, eh bien les Nations Unies vont apporter, n'est-ce pas, leur contribution et ce sera un succès. Cependant, si dans une famille, il n'y a absolument pas d'entente et que les gens ne veulent pas se parler, ne veulent pas faire la paix, les Nations Unies ne peuvent pas apporter une baguette magique. Pour la question du Burundi, il faut évidemment sauver des vies, comme les Nations Unies l'ont déjà fait par-ci, par-là. Dans ce sens, et je pense que Philippe a raison, on peut faire preuve de plus grande imagination et il faut compter sur tout le monde, la société civile, les droits de l'homme et d'autres organisations. Pas seulement sur l'ONU, mais l'ONU fera ce que l'ONU doit faire.
Voilà. Deux commentaires à Facebook à vous proposer maintenant. Freddy Niezimana, Lusaka, Zambie. Le ridicule ne tue pas, mieux vaut une guerre qui passe et change tout. Exemple, Angola, Mozambique, Ouganda, vous venez de le mentionner, qu'une mission dite de maintien de la paix, mais qui perpétue l'anarchie mélangée d'accalmie. Savez-vous que certaines missions gardent les peuples dans des camps et cela pour plus d'une décennie? L'exemple est le Darfour. Ouedraogo Youssouf, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. L'ONU peut consacrer plus d'énergie à la prévention des conflits plutôt que de toujours s'activer après chaque désastre, comme c'est le cas un peu partout en Afrique. C'est pour nous irresponsable que l'ONU tourne le dos à la Libye, aujourd'hui à la merci des groupes terroristes les plus redoutés au monde, comme l'EI. D'autres réactions à venir, mais aussi ces nouvelles accusations de viol par des casques bleus. Washington Forum revient après une petite pause.
Vous et nous, c'est votre émission.
Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous.
Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis.
Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche.
Racontez-nous vos histoires.
Et nous vous raconterons les nôtres.
Vies africaines.
Vies américaines.
Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun.
Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie.
Vous et nous.
Vous et nous.
Ensemble.
Jacques Aristide, de retour avec vous. Merci de suivre Washington Forum. Nous parlons des opérations de maintien de la paix de l'ONU en Afrique. Nos correspondants au Mali, en Côte d'Ivoire et en République centrafricaine ont tendu leur micro à quelques-uns de leurs concitoyens et nous proposent ce Vox Pop.
Je dirais même que les casques bleus représentent une plaie béante pour la communauté internationale. Parce que, normalement, le travail qui leur est dévolu, ils ne le font pas.
On entend leurs nouvelles dans les régions du Nord, hein, comme quoi ils participent à la dépravation de nos mœurs.
S'ils sont là vraiment pour la nation, c'est une bonne chose. Mais si c'est pour quelques groupes de personnes, là, ça ne va pas.
Je félicite la MINUSCA, parce que c'est grâce à la MINUSCA qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le pays, on arrive à avoir un peu la stabilité. Parce qu'on était...
Si cela ne tenait qu'à moi, ils n'ont aucun sens d'existence en Centrafrique du moment où, voilà, depuis qu'ils sont là, on n'a jamais senti l'amélioration des conditions de vie des Centrafricains.
Voilà, s'il faut apprécier leur travail, c'est au niveau de la logistique, hein, sur les élections, parce que c'est eux qui font acheminer les résultats, les procès-verbaux au niveau de la cellule de traitement.
Il y a toujours des bruits galeux quand il y a un ensemble. Mais cela n'en demeure pas moins qu'il faut reconnaître le rôle qu'ils jouent à travers le monde entier. Et il faut insérer ces agents, hein, ces éléments qui ternissent l'image de Casque à travers le monde entier.
Ce qu'ils font, c'est pas bon. C'est pas bien qu'une femme soit violée. Et aussi, les enfants doivent être protégés.
L'État trouve que ça va et que bon, ils doivent rentrer. Bon. Mais toujours est-il qu'ils ont toujours participé à la paix de ce pays-là et je les remercie beaucoup.
Oui, on les accuse de viol là. C'est pas bon pour les casques bleus. Donc je pense que ce qui va arriver, bon, il faut qu'ils en prennent les conséquences. Parce que c'est pas bien.
Clovis Kada, vous êtes à Goma, où d'ailleurs on retrouve des casques bleus très souvent. Mais malheureusement, les casques bleus ne jouissent pas, malheureusement, d'une très belle image auprès de la population. Pourquoi, d'après vous, Clovis ? Non. Malheureusement, on a perdu Clovis, mais on y reviendra. Je vais parler de ces allégations tout à l'heure, et d'ailleurs, on aura la réponse de Hervé Latsous. Alors, évidemment, il y a eu quand même l'âge d'or des opérations de maintien de la paix. Est-ce que c'est plus le cas maintenant? Pourquoi?
Les critiques qui émanent de quelques-uns des commentateurs que nous avons entendus, évidemment, quand ce sont des faits avérés, ces critiques sont très justifiées et l'ONU les prend très sérieusement. Aussi bien au sommet de notre organisation que sur le terrain, nos représentants spéciaux du secrétaire général, comme c'est le cas en Centrafrique, M. Parfait Onanga Nyanga, tous ces responsables ont une tolérance zéro et l'organisation a une tolérance zéro pour ces faits. Évidemment, il faut extirper le mauvais grain de tout ce que nous faisons sur le terrain. Il est bien évidemment hors de question que les populations que nous sommes censés protéger subissent ce genre de crimes allégués. En tout cas, sachez que tout n'est pas rose, bien évidemment, aux Nations Unies, mais tout n'est pas à peindre aussi d'un seul trait de pinceau. L'un des commentateurs qu'on a entendu sur Facebook, parlant à partir de la Côte d'Ivoire, il faut rappeler que nous avons maintenant la deuxième élection, qui est un succès en Côte d'Ivoire avec une élection multipartite, après un conflit qui a été long et violent, et que grâce à l'ONU, il y a eu ce processus. Et nous ne parlons pas souvent assez de nos succès, mais je crois effectivement que nous devons travailler plus fort pour corriger ces manquements.
Alors, justement, à propos des dernières allégations d'abus sexuels par des casques bleus en RCA, voici ce qu'avait à dire le chef des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsous.
D'abord, je voudrais dire que c'est absolument inadmissible, inacceptable, que des casques bleus qui sont là pour défendre les droits de l'homme ou les rétablir se livrent eux-mêmes à des actes qui sont des violations caractérisées de l'honneur de leur mission. Et donc, nous avons une politique extrêmement ferme Nous suspendons tout de suite les militaires ou les personnels, parce qu'il n'y a pas que des militaires aussi qui sont accusés. Mais il faut bien voir que la charge de l'enquête, elle repose sur les États membres, sur les États contributeurs de troupes. Et non, nous leur avons fixé des paramètres extrêmement stricts en termes de délai pour réaliser eux-mêmes l'enquête et lancer, s'il y a lieu, les poursuites. Mais il faut vraiment mettre un terme à tous ces actes absolument inacceptables. Nous avons une tendance qui va, je pense, à la bonne direction, mais il faut vraiment que les États contributeurs de troupes, avec le secrétariat, travaille pour faire en sorte que ça ne se produise plus. Autrement dit, tolérance zéro, mais il faut viser zéro acte.
Hervé Latsous, et nous retrouvons nos invités, Jean-Victor Nkolo du bureau du conseiller spécial pour l'Afrique auprès du secrétaire général de l'ONU, Clovis Kada, membre du bureau de coordination du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice en RD Congo, et Philippe Bolopion, le responsable ONU de Human Rights Watch. Philippe Bolopion, vous venez de l'entendre, ces allégations de viol dans un pays qui n'est même pas encore sorti d'une grave crise viennent-elles ternir davantage l'image des casques bleus?
Écoutez, malheureusement, évidemment, c'est absolument révoltant de voir que ce genre d'accusation continue année après année, pays après pays à exister. J'entends très bien Hervé Latsous quand il promet une tolérance zéro, mais évidemment, ça doit être beaucoup plus qu'un simple slogan. Ça doit prendre racine dans la réalité. Et malheureusement, c'est encore trop souvent le cas que lorsque des abus sexuels comme ça sont constatés, ils soient tués ou alors les soldats responsables sont renvoyés dans leur pays où ils ne sont pas inquiétés. Donc Hervé Latsous a raison, les pays contributeurs de troupes ont la responsabilité de juger les auteurs de ces crimes et malheureusement souvent ils dérogent à cette responsabilité. L'ONU peut faire plus de son côté, je pense, pour tirer la sonnette d'alarme, annoncer de manière publique ce genre d'allégations quand elles ont lieu. Et je crois que Parfait Onanga Nanga, qui est maintenant le représentant de l'ONU en Centrafrique, a vraiment adopté la bonne attitude. Il a vraiment changé le ton de l'ONU. On sent qu'il n'y a pas aucune complaisance ou plus d'efforts pour étouffer ce genre d'affaires. C'est très bien, à condition évidemment qu'on puisse aussi assurer le suivi après avec les pays contributeurs de troupes. S'ils veulent pouvoir continuer à participer aux opérations de maintien de la paix, ils devraient se montrer absolument exemplaires sur ce dossier. Soyons aussi honnêtes, l'ONU n'a pas le monopole de ces scandales. Les troupes françaises qui étaient déployées en Centrafrique ont été accusées d'abus sexuels contre des enfants absolument révoltants. Les soldats de l'Union africaine ont été accusés, y compris par Human Rights Watch, mon organisation, d'actes de torture, d'exécutions extrajudiciaires. Donc les casques bleus n'ont pas le monopole de ce genre d'abus, mais je dirais que l'ONU se doit de se montrer particulièrement exemplaire.
Je vous propose maintenant un dernier extrait de l'entretien avec Hervé Latsous.
Écoutez, je crois qu'il ne faut pas voir tout en gris ou en noir. En réalité, regardez la Côte d'Ivoire. Et souvenez-vous de la situation dans ce pays il y a 5 ans. Aujourd'hui, les élections présidentielles se sont passées de manière absolument correcte, on peut même dire exemplaire. Les institutions sont stables, la sécurité règne, même s'il y a ici ou là quelques incidents, mais après tout, dans quel pays n'y en a-t-il pas? Je crois qu'au contraire, la situation en Côte d'Ivoire, dont nous allons sans doute nous retirer en tant qu'opération de maintien de la paix d'ici un an ou 15 mois, 16 mois, on va voir, est une bonne illustration. Le Libéria, pareil, nous attendons les élections présidentielles qui sont prévues en octobre 2017, et je pense qu'à cet horizon, on pourra probablement fermer l'opération qui a déjà été très réduite sur le plan des effectifs. Et puis, regardez la Centrafrique, où en étions-nous il y a 2 ans et demi, où en sommes-nous aujourd'hui? Rien n'est parfait, il y a énormément de travail à faire, mais je crois que la sécurité est revenue, les ethnies, les différentes confessions se parlent. Souvenez-vous de la visite du pape à Bangui il y a 2 mois, qui s'est passée dans des conditions vraiment excellentes, et je dirais dans une ambiance qui aide beaucoup à faire avancer la cause de la réconciliation nationale.
Entretien avec Hervé Latsous que vous pourrez également retrouver sur voaafrique.com. Jean-Victor, nous savons que le commandement de la MONUSCO va être confié au général sud-africain Derek Buyiselo Mwebi en remplacement du brésilien Carlos Alberto dos Santos Cruz. C'est une question que j'ai également abordée avec monsieur Latsous. L'heure est-elle à l'africanisation des forces de maintien de la paix de l'ONU après les critiques africaines contre une communauté internationale trop intrusive?
D'abord, l'Afrique fait partie de la communauté internationale. Et aussi les troupes africaines au sein...
Mais sauf que pour beaucoup, quand on parle de la communauté internationale, là, c'est plus ou moins les pays occidentaux.
Eh bien, c'est plus qu'une erreur, c'est une faute. Parce que l'Afrique, les casques bleus ghanéens, par exemple, ont participé à des opérations de maintien de la paix ailleurs, dans d'autres régions, en dehors de l'Afrique, et ont fait un très bon travail. Vous savez, il n'y a pas que l'Occident. L'Occident a un apport très important et très généreux, souvent. Mais il y a aussi des pays comme l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Ghana, l'Éthiopie, le Rwanda, l'Afrique du Sud, vous venez d'en parler. Et je crois que faire la paix, maintenir la paix et garder la paix, c'est un peu comme élever un enfant. Il faut tout le village, il faut toute la communauté. Et je crois que l'Afrique joue sa place, et l'Afrique devrait jouer sa place, non pas seulement en Afrique seulement, mais aussi en dehors. Mais il y a une question importante de formation et de moyens. Et je crois que le remplacement d'un Brésilien par un Sud-Africain n'est pas une question fondamentalement africaine ou seulement africaine. Tant qu'il y a du volontariat et tant qu'il y a de la compétence, moi je n'ai aucun problème avec ça.
– Vous avez parlé de l'Afrique, vous avez parlé de l'Union africaine, Jean-Victor, et Hervé Latsous l'a dit, c'est facile de critiquer l'ONU évidemment et ses opérations de maintien de la paix, mais qu'en est-il de l'Union africaine? Doit-elle se donner les moyens pour jouer un rôle plus prépondérant sur le continent, et comment peut-elle justement se donner les moyens?
Je crois que c'est un défi, sans avoir le privilège, je ne peux pas parler pour l'Union africaine bien évidemment, mais je crois que c'est un défi que l'Union africaine est en train de relever depuis quelques années, non seulement en créant des missions hybrides avec les Nations Unies, mais en renforçant la collaboration entre l'Union africaine et les Nations Unies. D'ailleurs, dans le cas du sommet de l'Union africaine, à la fin de ce mois de janvier 2016 à Addis Abeba, le bureau du conseiller spécial, le bureau du conseiller du secrétaire général pour l'Afrique, va avoir une réunion avec toutes les régions économiques de l'Afrique, c'est-à-dire ceux qui sont plus proches sur le terrain. Les régions économiques africaines, l'Union africaine, ce bureau et d'autres partenaires sont plus aptes quand nous parlons avec ceux qui connaissent mieux la réalité du terrain.
Voyez comment le temps file dans cette émission. Philippe Bolopion, partagez-vous l'avis du patron du maintien de la paix de l'ONU qui croit que beaucoup d'Africains ont retrouvé, grâce aux Nations Unies, une perspective de vie meilleure? Et je dois dire que ce commentaire a fait beaucoup jaser sur la page Facebook de VOA Afrique.
Écoutez, l'ONU est souvent un punching bag assez facile. L'organisation intervient... il faut être honnête, dans des pays où personne d'autre souvent ne veut intervenir, dans des conditions extrêmement difficiles, avec souvent très peu de moyens. Donc il est facile évidemment de critiquer l'ONU, voire d'être un peu cynique par rapport à son action. La réalité, c'est que l'ONU est parfois la dernière chance pour certains de ces pays. On en a mentionné certains, mais à quoi ressemblerait aujourd'hui la Centrafrique si l'ONU n'avait pas déployé une mission de maintien de la paix? À quoi ressemblerait la Côte d'Ivoire? À quoi ressemblerait le Mali? Donc c'est bien de critiquer l'ONU, il faut le faire. L'organisation se doit d'être à la hauteur des attentes des peuples du monde, et en particulier à la hauteur des attentes des peuples qu'elle doit servir. Souvent, elle n'est pas à la mesure des enjeux, et elle peut s'améliorer, mais je dirais qu'il faut que la critique reste constructive, parce que la réalité, c'est que les pays occidentaux ou d'autres ne se battent pas pour aller intervenir en Afrique, et que souvent l'ONU a du mal à trouver des soldats pour assurer le maintien de la paix dans des conditions difficiles et très dangereuses pour leurs soldats. Donc je pense que il faut avoir...
Ce sera le mot de la fin, malheureusement, Philippe. Ce sera le mot de la fin. Point final à ce numéro de Washington Forum réalisé avec les équipes de New York et de Washington. Merci à nos invités, Jean-Victor Colo de l'ONU, Clovis Kada de la Société Civile Congolaise et Philippe Bolopion de l'ONG Human Rights Watch. Un clin d'œil à nos radios et télépartenaires qui nous soutiennent. Voilà, Jacques Aristide à New York. Take care.